C'est donc le dernier cours de l'année, malheureusement, parce que j'ai encore beaucoup à vous dire. Et j'ai voulu terminer ces leçons sur la guerre littéraire, la littérature comme sport de combat, par quelques figures réparatrices. Et j'ai donc commencé la semaine dernière, après tous ces blessés et tous ces morts, par quelques notes d'espérance. Et j'ai abordé la semaine dernière cette sorte de paix des braves, de fraternité d'armes, de respect mutuel entre adversaires que l'on rencontrait en prison parmi les compagnons d'infortune. Et cela me paraissait une sorte de dépassement de cette opposition fondamentale que j'avais posée au départ entre amis et ennemis. On avait donc assisté, la semaine dernière, à quelques amitiés surprenantes et néanmoins authentiques entre légitimistes et républicains à Sainte-Pélagie, par exemple entre Sosthène de La Rochefoucauld, qui était le directeur des Beaux-Arts de Charles X, et Charles Philippon, qui est l'inventeur de la poire, la caricature de Louis-Philippe. Ou encore, et j'avais terminé avec cela, par l'amitié sincère entre Chateaubriand et Armand Carrel, l'adorateur d'Henri V et le républicain farouche. Cela me permettait d'opposer ces amitiés sincères à la camaraderie, au charlatanisme, à ce que Stendhal appelait la canaille littéraire. Je voudrais aborder, toujours dans cette figure que j'avais intitulée, vous vous le rappelez, « Les loyaux adversaires », en référence à René Char, je voudrais introduire une seconde variante de cette loyauté entre adversaires, si l'on peut dire, touchant aux relations entre les prisonniers et l'administration, prisonniers et directeurs, prisonniers et inspecteurs, prisonniers et préfets, préfets de police. On avait vu la semaine dernière déjà que le directeur autorisait les concerts de musique dans son salon où se réunissaient républicains et carlistes. Le préfet des années agitées, des débuts du régime de Juillet, a lui aussi laissé de passionnants mémoires, 4 volumes publiés en 1840. Il s'agit d'un homme nommé Henri Gisquet, qui a été préfet de police entre octobre 1831 et septembre 1836. Entre la Révolution de Juillet 1830 et septembre 1831, il y a déjà eu 3 préfets de police, mais ils n'ont pas tenu plus de quelques mois chacun, se révélant, incapables de maîtriser les insurrections incessantes. Henri Gisquet est donc resté le préfet de police pendant la période agitée. Vous vous souvenez de l'expression de Tarde pour décrire ce moment. Période très chaude, avec des insurrections constantes, républicaines, légitimistes, le choléra, vous vous souvenez l'an dernier de l'émeute des chiffonniers à propos du choléra, les attentats, et puis les épisodes de répression sévère, la fameuse caricature de Daumier sur la rue Transnonain de 1834. Donc c'est une période très dure. Et on a néanmoins un préfet qui est un honnête homme, comme tous les préfets. Humaniste, c'est celui qui emploie Vidocq, il fait un grand usage des mouchards et de ce qu'on appelle ce qu'on appelait déjà les cabinets noirs. À ce moment-là, Sainte-Pélagie, que vous voyez ici, ça c'est la vieille Sainte-Pélagie qui date de l'Ancien Régime. Sainte-Pélagie, on est en train de construire un nouveau bâtiment que je vous montrerai tout à l'heure. Ceci, c'est le vieux bâtiment. Le nouveau bâtiment est en construction en juillet 1830, au moment de la Révolution. Il sera achevé peu après et il est destiné, dès 1831, aux détenus politiques. Les détenus politiques, c'est les délits de presse, évidemment. Et sous Gisquet, sous l'administration de ce préfet de police, au début de la monarchie de Juillet, bien, le régime est commun à tous les détenus. En prison, il y a des détenus de droit commun, des détenus pour dette, en partie à Sainte-Pélagie, avant qu'ils se déplacent à la prison de Clichy. Et puis, il y a des détenus politiques. Et évidemment, les détenus politiques ont un régime de faveur, un régime privilégié, si, bien entendu, ils font mine d'être de bonne composition. Et c'est donc un régime d'exception et d'arbitraire, ce qui est réprouvé par l'inspecteur général des prisons, que je vous citais la semaine dernière, Moreau Christophe, dont l'ouvrage de l'état actuel des prisons de France date de 1840. C'est un ouvrage important et justement il condamne cette souplesse de la règle et cette tolérance à l'égard des politiques. Il dit « toute règle qui dépend de la volonté muable de l'autorité qu'il impose n'est pas une règle ». Eh bien, c'est comme ça que fonctionnent les prisons à cette époque-là, avec donc des faveurs pour les journalistes qui sont, comment dire, aimables, pour cette aristocratie républicaine que nous décrivions la semaine passée. Et voilà ce qu'écrit, par exemple, Gisquet dans ses mémoires, publiés en 1840. « Cependant, quoique l'acharnement des journaux dût m'inspirer des désirs de vengeance, bon, je ne traiterai pas la figure de la vengeance cette année, combien de fois n'ai-je pas obligé des journalistes ? La plupart d'entre eux, condamnés à une détention plus ou moins longue, me jugeant tout autre que leur feuille ne m'avait dépeint, voulaient bien s'adresser à moi pour obtenir la faveur de subir leur détention dans une maison de santé. » Vous vous souvenez, la semaine dernière, que Sosthène de La Rochefoucauld ne s'était pas humilié en demandant à être transféré dans une maison de santé, en demandant au régime de Juillet. « Cette faveur, je me suis empressé de l'accorder ou de la faire accorder à tous ceux qui l'ont sollicité, notamment à messieurs Schaeffer. » Et voilà une sorte, non pas de délation, mais de liste de ceux qui ont demandé. Monsieur Schaeffer, gérant du National, Viennot, gérant du Corsaire, Bascan, gérant de la Tribune, Philippon, le revoici, gérant de la Caricature, de Nugent, gérant du Revenant, de Briand, gérant de la Quotidienne, Bérard, éditeur ou auteur des Cancans, Charles Maurice, gérant du Courrier des Théâtres, et à plusieurs autres. Cette liste est intéressante puisqu'on y voit à la fois les journaux républicains, le National, la Tribune, les journaux légitimistes, le Revenant, la Quotidienne, et les petits journaux, la Caricature, célèbre, et le Courrier des Théâtres, et les Cancans et le Corsaire. Donc, de tous les côtés, il accorde ses faveurs si on lui demande. Tout est présent, bien sûr, sauf le juste milieu qui est au pouvoir. Et puis, dit-il, et même à ceux qui ne demandaient pas aller en maison de santé, il accordait des permissions de sortie quand on les lui demandait. Parmi ceux qui n'ont pas demandé à être transférés dans une maison de santé, il en est beaucoup à qui je permettais de sortir sur leur engagement d'honneur. Il n'en est pas un seul qui ait de mon fait éprouvé un refus. Messieurs Carrel et Paulin, vous voyez que même Carrel a demandé des permissions de sortie quand il était à Sainte-Pélagie, gérant du National, Touré, gérant de la Révolution, donc des Républicains, Destigny, auteur de la Némésis incorruptible, donc un journal satirique, Munier, gérant du Mailleux, et quelques autres écrivains dont les noms m'échappent, ont souvent profité de ces permissions. Ce sont là de faibles services, mais ils engageaient ma responsabilité et plusieurs fois, ils m'ont valu quelques désagréments. Bon, il raconte certains de ces désagréments, mais enfin, vous voyez cette image du préfet généreux qui sait aussi que les régimes ne durent pas très longtemps et que le vent peut tourner. Gisquet, en tout cas, n'hésite pas à livrer ses cas. J'ajouterai que M. Destigny me fut redevable de sa liberté. Je ne le connaissais que par ses œuvres poétiques, hein, cette Némésis incorruptible que voici, satire demeure. Je ne le connaissais que par ses œuvres poétiques dans lesquelles je n'étais pas épargné. Mais ce jeune homme, doué d'un beau talent et sincère dans ses convictions, eut recours à moi pour aider un de ses co-détenus. Son air franc m'inspira de l'intérêt. J'ai eu la satisfaction de lui être utile. Je le dis parce que la reconnaissance, j'aime à le croire, ne pèse pas au cœur de M. Destigny. Ce qui veut dire qu'il a sans doute continué sa poésie satirique contre le préfet, et nous voyons cette sorte d'ingratitude des littérateurs à l'égard du préfet de police. Voilà, ce sont des vicissitudes de l'histoire, et Gisquet règle des comptes. Mais voici ce qu'il dit de M. Munier, encore celui qui faisait ce mailleux qui a été souvent interdit et il a été lourdement condamné. M. Munier était dans une situation encore plus défavorable à mon égard. Rédacteur-gérant d'un abominable journal nommé Le Mailleux. Vous savez, Le Mailleux, c'est ce bourgeois sous Louis-Philippe, peint en bossu par Traviès, Daumier et les autres. C'est le prototype du Louis-Philippard. Où j'avais lu, au milieu des outrages adressés au chef de l'État, des imprécations contre moi. M. Munier subissait à Sainte-Pélagie des condamnations à 5 ou 6 ans de prison et devait en outre payer quelques milliers de francs d'amende, ce qui lui était absolument impossible. Il eut l'occasion de me voir pour me remercier d'un léger service. Je causai avec lui, ma franchise lui plut. Il m'avoua qu'il me croyait tout autre. « Si je vous avais rencontré dans la rue il y a un mois, me dit-il, je vous aurais tué avec joie. » Vous vous souvenez que c'était la même chose que disait un républicain à La Rochefoucauld la semaine dernière. « Maintenant, je suis heureux d'être détrompé et de pouvoir détromper quelques-uns de vos ennemis. Je l'engageais vivement à renoncer à la carrière du journalisme. Il me crut, secoua le joug de son exaltation politique et eut le bon esprit d'accepter une place de 2400 francs au bureau de La Fourrière, dont je l'ai plus tard nommé chef. Cet emploi n'a rien de commun avec la politique. » Je vous rappelle que c'est le préfet qui faisait travailler Vidocq, et nous voyons ici ses manières. Mais Gisquet, Henri Gisquet, préfet des débuts de la monarchie de Juillet, est surtout célèbre pour avoir hébergé Chateaubriand, prisonnier en juin 1832, et là encore, par obligeance, attention, égard pour l'écrivain, ancien ministre, ou peut-être anticipation des retournements de l'histoire et de la réversibilité des positions. C'est une période où prisonnier, geôlier, le vent tourne rapidement. C'est l'âge de ce qu'on appelle les girouettes, et il y a de nombreux dictionnaires de ces girouettes. Je vous rappelle que Chateaubriand a été arrêté le 16 juin 1832 et mis en prison à la préfecture de police. Il y a un très long récit, très beau récit dans les mémoires de Treutombe auquel je vous renvoie. Et il faut aussi avoir à l'esprit que juin 1832, c'est un moment extrêmement important et grave dans l'histoire de cette période, puisque c'est en plein choléra. Ce sont les émeutes républicaines qui suivent les obsèques du général Lamarque. Donc il y a des émeutes dans tout Paris, il y a le choléra, il y a la mort du président du Conseil, Casimir Perier, qui, entre parenthèses, est le protecteur de Gisquet. C'est lui qui l'a nommé préfet. Donc Paris est vraiment très agité dans ce mois de juin 1832. Puis il y a les aventures de la duchesse de Berry, qui a débarqué dans le Midi et qui se rend en Vendée pour essayer d'agiter le pays. Et Chateaubriand est prévenu de complot contre la sûreté de l'État, pour sa complicité avec la duchesse de Berry. Et il sera détenu pendant 14 jours, d'abord au dépôt de la préfecture de police. Et puis, il passe la journée au dépôt, et voici que Gisquet, le soir, sans doute revenant d'avoir traité le choléra et les insurrections, se rend dans sa cellule du dépôt, quai des Orfèvres. « Je commençais à me déshabiller, nous dit Chateaubriand. Un bruit de bois se fit entendre. Ma porte s'ouvre et monsieur le préfet de police, accompagné de monsieur Ney, c'est son secrétaire, se présente. Il me fit 1000 excuses de la prolongation de ma détention au dépôt. Mais ajouta-t-il, monsieur le vicomte, vous allez venir chez moi. Monsieur le vicomte, et vous choisirez dans mon appartement ce qui vous conviendra le mieux. je le remerciais et je le priais de me laisser dans mon trou. J'en étais tout charmé comme un moine de sa cellule. Je reviendrai à cette image de la cellule monacale qui plaît tant à Chateaubriand. Monsieur le préfet se refusa à mes instances et il me fallut dénicher. Monsieur Gisquet et Madame Gisquet m'ouvrirent toutes leurs chambres en me priant de désigner celle que je voudrais occuper. Monsieur Ney me proposa de me céder la sienne. J'étais confus de tant de politesse. J'acceptai une petite pièce écartée qui donnait sur le jardin et qui, je crois, servait de cabinet de toilette à Mademoiselle Gisquet. Monsieur Gisquet me dit que je pouvais user le jour de tous ces salons du billard et me promener dans le jardin. Madame Gisquet était la meilleure femme du monde et Mademoiselle Gisquet était très jolie et fort bonne musicienne. Il s'ensuit une petite idylle, comme souvent chez Chateaubriand. Je n'ai qu'à me louer des soins de mes hôtes. Ils semblaient vouloir expier les 12 heures de ma première réclusion. Le lendemain de mon installation dans le cabinet de Mademoiselle Gisquet, je me levai tout content en me souvenant de la chanson d'Anacréon sur la toilette d'une jeune grecque. Le son du piano de Mademoiselle Gisquet parvenait jusqu'à moi avec la voix des mouchards qui demandaient quelques chefs de division pour faire leur rapport. C'est donc l'abri dans ce Paris agité, ce havre de grâce, qu'est la cellule, une sorte de retraite délicieuse de Locus Amenus en plein Paris agité. Et s'ensuit un chapitre intitulé « Ma vie chez Monsieur Gisquet ». Monsieur Gisquet m'avait offert, comme je vous l'ai dit, tous ses salons. Mais je n'abusais pas de la permission. Seulement un soir, je descendis pour entendre, assis entre lui et sa femme, Mademoiselle Gisquet jouer du piano. Ça rappelle la scène de la semaine passée dans le salon du directeur de Sainte-Pélagie. Son père la gronda et prétendit qu'elle avait exécuté sa sonate moins bien que de coutume. Ce petit concert que mon hôte me donnait en famille, n'ayant que moi pour auditeur, était tout singulier. Pendant que cette scène pastorale se passait dans l'intimité du foyer, des sergents de ville, vous voyez que Chateaubriand n'oublie jamais cette autre face, m'amenaient du dehors des confrères à coups de crosses de fusil et de bâtons ferrés. Quelle paix et quelle harmonie régnaient pourtant au cœur de la police. Donc c'est au plus profond de ce qu'est des orfèvres, de la préfecture de police, qu'on trouve finalement la paix. Dans la guerre, cette accalmie. Et Chateaubriand explique aussi dans ses Mémoires d'outre-tombe pourquoi il consacre ce passage à M. Gisquet, qui, il ne l'oublie pas, est un adversaire politique. Si M. Gisquet allait par l'histoire à la postérité, peut-être y arriverait-il en assez mauvais état. Il a écrit lui aussi ses mémoires pour se défendre. « Je désire que ce que je viens d'écrire de lui, serve ici de contrepoids à une renommée ennemie. » C'est pourquoi j'évoque cette sorte de loyauté entre adversaires. « Je n'ai eu qu'à me louer de ses attentions et de son obligeance. » Voilà, c'est l'obligeance qui peut régner entre adversaires. Sans doute, si j'avais été condamné, il ne m'eût pas laissé échapper, mais enfin, lui et sa famille m'ont traité avec une convenance, un bon goût, un sentiment de ma position, de ce que j'étais et de ce que j'avais été. Chateaubriand, grâce à cette petite idylle avec Mademoiselle Noémie, elle s'appelle Noémie, Mademoiselle Gisquet, mais enfin, Chateaubriand a bien compris que Mademoiselle Gisquet en penchait pour Monsieur Ney, le secrétaire de Gisquet, qu'elle épousa bientôt. En tout cas, cette petite idylle me fournit une parfaite transition vers la dernière figure que je voudrais évoquer dans ce cours, qui est celle du repos du guerrier. Et ce repos du guerrier, cette sorte de, comment dire, de trêve, de suspension des hostilités, je l'associe à ce que j'appellerais l'ostium carcéral, le bonheur en prison, la retraite en prison de tous ces prisonniers. Cette retraite, puisque tant d'écrivains sont passés par la prison dans ces années-là, du XIXe siècle, cette retraite qui est faite de lectures, de travaux d'écriture, de conversations, ou encore, on l'a vu, de musique et de visite. Et là aussi, il y a de nombreux témoignages dans les mémoires de ces écrivains condamnés pour délit de presse et qui, certes, sont des privilégiés, ils ne sont pas dans le régime général de la prison. Sous la Restauration, dans Sainte-Pélagie, il y avait ce qu'on appelait le corridor rouge. Et le corridor rouge, c'était les cellules qui étaient réservées aux délits de presse. Et puis, sous la Monarchie de Juillet, dans le nouveau bâtiment de Sainte-Pélagie, que vous voyez ici dans une photo d'Adjet, c'est rue du Puy de l'Ermite, au coin de la rue de la Clé, ça c'est la rue de la Clé qui part là, la rue du Puy de l'Ermite. Voilà le bâtiment de Sainte-Pélagie sous la monarchie, inauguré juste après la Révolution de 1830, et c'est là où les écrivains ont donc séjourné sous la Monarchie de Juillet, sous le Second Empire. C'est un bâtiment de Baltar, mais Baltar, le père. En tout cas, dans ce bâtiment, il y a ce qu'on appelle le pavillon des princes. Le pavillon des princes, c'est l'aile droite, et c'est là, c'est cette aile-là qui était réservée aux détenus politiques, c'est-à-dire aux écrivains et aux journalistes condamnés pour délit de presse. Voici un plan qui nous montre exactement où est Sainte-Pélagie. Vous avez la rue de la Clé, qui existe toujours, la rue du Puy de l'Ermite, et la rue Copeau, c'est la rue Lacépède aujourd'hui. Là, maintenant, vous avez la rue Monge qui traverse, c'est la caserne de la rue Mouffenard. Voilà le pâté de maison de Sainte-Pélagie. Et là, il y a encore des jardins autour, à ce moment-là. Et donc, on est dans le pavillon, le pavillon qui est là. Eh bien, vous allez le voir, on a une très belle vue. C'est un séjour assez agréable. On a une vue sur le Jardin des Plantes. On a une vue sur tout Paris. Et voilà encore une photo d'Adjet qui nous montre cette Sainte-Pélagie du XIXe siècle. En face, les bâtiments où, par exemple, c'est là que Proudhon a logé sa femme pendant son séjour à Sainte-Pélagie. Et j'en parlerai dans un moment. Donc, c'est là où ont séjourné beaucoup d'écrivains sous les trois régimes du XIXe siècle. S'ils se tenaient bien et s'il y avait de la place, parce que souvent, ils étaient trop nombreux pour les cellules du corridor rouge ou du pavillon des princes, et donc ils se trouvaient avec les détenus politiques, ce qui était beaucoup moins confortable. Par exemple, témoignage de Courrier, l'un des premiers à être condamné après la loi de 1819, condamné à 2 mois en octobre 21 pour son pamphlet, pour l'un de ses pamphlets. « Ce soir, je m'établis à Sainte-Pélagie, on y est fort bien, on ne manque de rien, on voit du monde, on reçoit des visites de dehors, plus que je n'en voudrais. » La retraite n'est donc pas parfaite. Dans la cellule de Courrier, lorsqu'il la libère, après 2 mois, c'est Béranger qui séjourne à son tour pendant 3 mois, au début de 1822, et qui écrit beaucoup de poèmes. Il y a beaucoup de poésie, les chansons de Béranger écrites à Sainte-Pélagie. Je n'ai pas le temps d'entrer dedans, mais vous les lirez et vous verrez que c'est un séjour qui n'est pas trop désagréable. Béranger a beaucoup de soutien qui lui envoie des bourriches de gibier, par exemple, à Sainte-Pélagie. Et puis, un peu plus tard, on y trouve Étienne de Jouy. Étienne de Jouy, dont je vous ai beaucoup parlé l'année dernière, l'ermite de la chaussée d'Antin. Étienne de Jouy se trouve à Sainte-Pélagie avec son ami, compagnon, Antoine G., avec qui il a écrit une biographie des nouvelles des contemporains. Et cette biographie nouvelle des contemporains contient, c'est ça leur faute, un certain nombre de régicides. Ils sont donc condamnés à 1 mois de détention au début de 1823 pour cette apologie du régicide, pour excitation à la haine et au mépris du gouvernement du roi. Et ils décident de passer leur mois en prison en mai 1823 en écrivant une chronique alternée qui s'intitule « Les ermites en prison ». Puisqu'il était le fameux ermite de la chaussée d'Antin. Et bien sûr, ces chroniques, les ermites en prison, c'est aussi l'occasion de publier les pièces du procès, et tout le thème est celui de la consolation en prison. Mais il faut ajouter que ce sont des hommes blasés, ce sont des hommes qui ont déjà connu la prison. Étienne de Jouy, dit-il, dans ses Ermites en prison, est enfermé pour la troisième fois. Et comme son avocat a dit lors du procès, c'est un vétéran de la littérature et de l'armée. On retrouve bien ce topos des armes et des lettres. Et rappelle-t-il, la première fois qu'il a été en prison, c'était par ordre d'un comité révolutionnaire. La seconde, par un arrêté du directoire, et aujourd'hui, par un arrêt de la Cour royale. Et dit-il, toujours pour le même motif, liberté d'expression. Mais évidemment, les deux premières fois, durant la terreur, étaient plus inquiétantes que sous la monarchie de Juillet, sous la Restauration. Ils prennent donc leur séjour avec beaucoup de sagesse. G se rend à Sainte-Pélagie avec Épictète dans son sac. Et il dit, il faut avoir l'esprit bien fait pour apprécier les avantages de la prison. Et l'avantage de la prison, c'est la liberté du prisonnier. G compare son sort à celui du guichetier qui l'enferme chaque soir. « Ne suis-je pas plus libre que cet homme-là » dit-il. Et Jouy s'adresse au roi, donc Louis XVIII, en disant « Sire, dis-je à une pièce d'argent où il y a l'effigie de Louis XVIII, faites-moi l'honneur de me dire si vous êtes beaucoup plus libre que moi. Votre Majesté, qui sait son Horace par cœur, n'a pas besoin que je lui rappelle ces deux vers « aliena, negocia, centum, per caput », etc. Que d'affaires, que de devoirs, que d'ennuis, vous en avez par-dessus les oreilles. Pour moi, sire, qui n'ai sur les bras ni la guerre d'Espagne, ni les ministres de France, ni ceux d'Angleterre, ni les ultras, ni les jésuites, je me crois et je me trouve, en effet, plus libre qu'un roi, dont l'esprit, aussi vaste que profond, est forcé de mener de front tant d'affaires à la fois, de concilier tant d'inconciliables, de désunir tant d'inséparables et de conduire une machine aussi compliquée sans en briser les ressorts. S'il y a quelque chose de paradoxal à soutenir que je suis en prison plus libre que votre majesté sur le trône, il est du moins certain que je suis plus heureux. Il y a donc cet exercice spirituel qui consiste à affirmer sa liberté. Jouy dit encore, je finis toujours ma journée par me demander comment il se fait que je sois en prison, et cette réflexion me ramène sans cesse à la pensée de juger mes juges et de s'endormir avec bonne conscience et le sommeil du juste. Et puis il note encore, puisque Jouy est de l'Académie française, les visites de ses confrères. Je vais rarement à l'Académie, dont j'ai pourtant l'honneur d'être membre, et je n'avais pas le droit d'espérer que mes 39 immortels confrères vinssent abaisser leur front académique sous les voûtes de ma prison. 6 d'entre eux m'ont donné ce témoignage personnel d'estime et d'amitié et sont venus s'assurer par leurs yeux qu'on ne m'avait pas envoyé à Poissy, donc à une centrale, avec quelques galériens. Et pourquoi non ? Je suis de l'Académie, mais n'a-t-on pas envoyé dans cette prison des malfaiteurs ? Monsieur Magalon, qui est un poète dont je n'ai pas le temps de parler, et plusieurs hommes de lettres qui seront de l'Académie lorsque nous n'en serons plus. Vous voyez qu'on peut poser la question, je crois qu'on l'a déjà posée une fois, y a-t-il encore une République des lettres au XIXe siècle ? S'il y a une République des lettres, elle se trouve à Sainte-Pélagie dans ces années-là. Et on en a donc beaucoup d'exemples. Encore un écrivain qui a séjourné à Sainte-Pélagie, c'est Barthélemy, poète satirique célèbre de Barthélemy et Méry, qui sont les auteurs de beaucoup de poèmes satiriques sous la Restauration, et puis d'une revue qu'ils font à eux deux qui s'appelle « L'Anémésis » au début du régime de Juillet. Ils sont emprisonnés, Barthélemy est emprisonné en 1829. La légende voudrait qu'il ait été libéré par la Révolution de Juillet. Je ne suis pas certain que ce soit exact. En tout cas, voici ce qu'il dit en introduisant son poème sur Sainte-Pélagie qui est intitulé « La bourse ou la prison », un cri à Sainte-Pélagie. « Sainte-Pélagie, qui n'était autrefois pour la littérature qu'une résidence d'exception, semble être devenu aujourd'hui son domicile de droit. Le lieu de la littérature, c'est Sainte-Pélagie. Le plus pur de nos écrivains politiques, politiques ou poétiques, ne peut se dire à l'abri d'une condamnation imprévue et la justice distributive des écrous pèse également sur tous les partis. On a donc dans son poème un thème qu'on revoit très souvent dans ses récits de prison, qui est celui, je disais, de la consolation ou encore du Suave Mari Magno. En prison, on est à l'abri de l'agitation du monde. C'est le poème de Barthélemy. Ici vient expirer la tempête qui gronde sur les jours agités des habitants du monde. C'est un port au milieu de l'orageux Paris. Une éternelle paix règne sous nos lambris, etc. Voilà qu'on a bien un genre qui est le récit de Sainte-Pélagie avec la paix de la prison. Vous vous souvenez de Sosthène de La Rochefoucauld, dont je parlais la semaine dernière? Eh bien, lui aussi, en prison, il trouve son bonheur. Quand il arrive, il n'y a pas de place dans le pavillon des princes, et il doit donc d'abord subir le sort de tout le monde. Il refuse, on l'a dit, de demander à être transféré dans une maison de santé par orgueil, car il faudrait écrire au ministre. Mais, dit-il, tout cela me porte à bonheur, car au milieu des inquiétudes assez naturelles que ma famille pouvait concevoir de la situation où je me trouvais, une autre chambre, que dis-je, une espèce de palais devint vacant dans l'intérieur de Sainte-Pélagie. Donc dans ce pavillon des princes à droite du nouveau bâtiment. Il s'y installe pour 3 mois, puisqu'il est condamné à 3 mois, et voici comment il s'installe. Je fais mettre un petit papier gris dans ma chambre, un tapis, des rideaux, j'aurai de grandes fenêtres. Enfin, je vais être tout content, et au bout de mes 3 mois, il faudra pour me faire sortir de prison plus d'efforts qu'il n'en a fallu pour m'y faire entrer. Je dis 3 mois, car bien décidé à ne point adresser au pouvoir la demande que l'on veut de moi, je ne songe plus à la maison de santé, et je me suis résigné à mon sort, qui n'a rien de gai, et pourtant ne m'amène pas un moment de vraie tristesse. Inspiré, Sosthène de La Rochefoucauld, se met même à rédiger une nouvelle. Bon, il explique que s'il se met à la littérature, c'est par ruse, pour avoir un prétexte lorsque le directeur de la prison entre dans la cellule pour l'espionner. Le directeur entre à l'improviste pour voir ce qu'il est en train de faire. Or, il est en train d'écrire un mémoire à l'intention du duc de Bordeaux, futur Henri V. Et par conséquent, quand le directeur de prison arrive, il pose par-dessus le mémoire cette feuille de la nouvelle qu'il est en train d'écrire. Mais enfin, cette nouvelle, il y attache tout de même de l'intérêt, puisqu'il la montre, il l'envoie à son ami Georges Sand, avec lequel il entretient une abondante correspondance. Cette nouvelle qui s'appelle Bellica, ce qui nous conduit de nouveau à la guerre, il la publie en 1833, dès qu'il sort de prison. Mais revoici Chateaubriand qui lui aussi, donc, en juin 1832, est transféré au dépôt avant de loger chez le préfet. Et durant la journée qu'il passe dans ce qu'il appelait sa niche au dépôt, eh bien, c'est une nouvelle jeunesse. C'est le retour de l'inspiration poétique. Et voici ce qu'il dit. « Je remercie les hommes de lettres, grands partisans de la liberté de la presse, c'est le comte de Montalivet, ministre de l'Intérieur, qui l'a mis en prison, qui naguère m'avait pris pour leur chef et combattait sous mes ordres. Sans eux, j'aurais quitté la vie sans savoir ce que c'était que la prison. Et cette épreuve-là m'aurait manqué. Je reconnais à cette attention délicate le génie, la bonté, la générosité, l'honneur, le courage des hommes de plume en place. Mais après tout, qu'est-ce que cette courte épreuve? Le Tasse a passé des années dans un cachot et je me plaindrai. Non, je n'ai pas le fol orgueil de mesurer mes contrariétés de quelques heures avec les sacrifices prolongés des immortelles victimes dont l'histoire a conservé les noms. » Il y a toujours ce modèle du Tasse, hein, c'est le modèle du prisonnier qui s'impose. Et Chateaubriand, dès qu'il entre en prison, eh bien, retrouve l'inspiration. Au surplus, je n'étais point du tout malheureux. Le génie de mes grandeurs passées et de ma gloire, âgé de 30 ans, ne m'apparut point, mais ma muse d'autrefois, bien pauvre, bien ignorée, vint rayonnante m'embrasser par ma fenêtre. Elle était charmée de mon gîte et tout inspirée, elle me retrouvait comme elle m'avait vu dans ma misère de Londres, lorsque mes premiers songes de René flottaient dans ma tête, etc., etc. Donc c'est le retour de l'inspiration pour Chateaubriand en prison, et il se met donc à écrire un poème, et il y a ce beau passage où il se met à écrire de la poésie latine, mais voilà que la quantité me manque, hein, mais voilà que la quantité d'un mot m'embarrassa. Vite, je saute au bas de la table où j'étais juché, appuyé contre les barreaux de la fenêtre, et je cours frapper de grands coups de poing dans ma porte. Les cavernes d'alentour en retentirent. Le geôlier monte épouvanté, suivi de deux gendarmes. Il ouvre mon guichet et je lui crie, comme aurait fait Santeuil, « Un gradus, un gradus ». Le geôlier écarquillait les yeux. Les gendarmes croyaient que je révélais le nom d'un de mes complices. Ils m'auraient volontiers mis les poucettes. Je m'expliquais, je donnais de l'argent pour acheter le livre et on alla demander un gradus à la police étonnée. Il y a donc une sorte de bonheur de la prison et de cette inspiration qui est retrouvée. Et je l'ai dit, ce sera ensuite l'enchantement auprès de Mademoiselle Gisquet et cette sorte de Chateaubriand des premières années qui est retrouvé. C'est donc un idéal de la cellule, un vieux rêve de Chateaubriand qu'il retrouve un peu partout. Le voici peu après sa prison. Il va rendre visite à Charles X à Prague et il s'arrête à Venise et à Venise il va visiter Murano. Et il y retrouve cet idéal de la cellule. Saint-Michel de Murano est un riant monastère avec une église élégante, des portiques et un cloître blanc, des fenêtres du couvent, on aperçoit par-dessus les portiques les lagunes et Venise, un jardin rempli de fleurs va rejoindre le gazon dont l'engrais se prépare encore sous la peau fraîche d'une jeune fille. Cette charmante retraite est abandonnée à des franciscains. Donnez-le-moi, donnez-moi là, je vous prie, une cellule pour achever mes mémoires. Il y a tout le temps dans les mémoires d'Outre-Tombe ce rêve de la cellule pour achever mes mémoires. Et vous voyez que la cellule carcérale se confond avec la cellule monacale qui serait le lieu de la retraite et du bonheur. Déjà, quand il était à Rome, ambassadeur à Rome, Chateaubriand disait « Si j'ai le bonheur de finir mes jours ici, je me suis arrangé pour avoir à Saint-Onufre un réduit joignant la chambre où le tasse, modèle du prisonnier poète, expira. Au moment perdu de mon ambassade, à la fenêtre de ma cellule, je continuerai mes mémoires dans un des plus beaux sites de la terre, parmi les orangers et les chênes verts, Rome entière sous mes yeux, chaque matin, en me mettant à l'ouvrage, entre le lit de mort et la tombe du poète, j'invoquerai le génie de la gloire et du malheur. » Le tasse est une figure qui apparaît souvent dans ses mémoires. C'est le modèle de cette heureuse cellule. Avec ses amis, Chateaubriand exprimait souvent ce rêve d'une cellule. Il confie à ses amis qu'il voudrait se retirer de tout et qu'il ne désire qu'une cellule. Mais son ami Salvandi eut ce mot qui est rapporté par Sainte-Beuve à deux reprises, « Oui, une cellule sur un théâtre ». Et c'est pourquoi les amis de Chateaubriand ne croyaient pas trop à ce rêve de cellule. Je voudrais encore citer Proudhon, dont le séjour en prison ne fut pas une sinécure sous le régime de Louis-Napoléon Bonaparte et puis de Napoléon III. Il a lui aussi connu la joie de Sainte-Pélagie. Il fut condamné pour ses articles contre Louis-Napoléon Bonaparte en mars 1849 à 3 ans de prison et 3 000 francs d'amende. ce qui est beaucoup plus que les séjours que je citais auparavant. Et en principe, lorsqu'on est condamné à plus d'un an, on ne reste pas à Paris. On est envoyé dans loin en province. Ces trois ans, Proudhon ne les a pas fait en entier à Sainte-Pélagie. Il a été souvent à la conciergerie, ce qui était beaucoup plus désagréable, ou à la centrale au fort de Doullens. Mais il demande toujours à revenir à Sainte-Pélagie. Voici son arrestation, décrite dans sa correspondance à un ami. Le constitutionnel d'hier a dû vous apprendre que j'avais été arrêté avant-hier, mardi, à 8 heures du soir. J'ai été, à ce qu'il paraît, reconnu par quelque ami qui s'est empressé de faire part de la découverte à M. Carlier. M. Carlier, c'est le préfet de police à l'époque, au début de la présidence de Louis-Napoléon Bonaparte, qui me l'a redit. « Me voilà donc en sûreté pour un peu de temps. Je suis prisonnier, mais mon esprit est libre, aussi gai, aussi alerte que jamais. Je vais m'organiser pour travailler le plus possible et charmer les ennuis de la prison. » C'est le même thème que chez Jouy, chez Chateaubriand. L'ennui de la prison sera studieux. C'est un loisir studieux. Et puis, lorsqu'il revient à Sainte-Pélagie, après un séjour à la conciergerie, il dit... En effet, je suis à Sainte-Pélagie, j'occupe au pavillon dit des princes un salon au premier étage avec deux grandes fenêtres ayant vue sur l'hôpital de la Pitié et le jardin des plantes. Quand vous viendrez à Paris, je serai mieux à mon aise pour vous recevoir. Vous voyez que c'est un séjour qui n'est pas trop désagréable que celui de Sainte-Pélagie. Et voici ce qu'il écrit encore lorsqu'il y est revenu. « Je suis à Sainte-Pélagie, à peu près aussi bien qu'on peut être en prison. J'occupe une chambre carrée d'environ 5 mètres de toute dimension, ayant deux fenêtres et vue sur la Pitié et le Jardin des Plantes. Je n'étais pas si bien logé à la rue Mazarine, chez moi, même quand j'étais représentant. Je mange le pain de la prison, qui est bon, je prends le bouillon du matin, deux fois gras et cinq fois maigre la semaine. Je me pourvois du surplus au restaurant. L'administration nous fournit du vin à 12 sous le litre, supérieur à celui des marchands de vin, à 1,50 la bouteille. Je reçois mes visiteurs chez moi. J'ai obtenu la permission de recevoir brochures et journaux. J'ai fait venir tous mes bouquins. Tout ce que je possède, enfin, est comme moi, sous les verrous. Ce que je souhaite, malgré l'ennui de la captivité et l'incommodité physique et morale qui en est la suite, c'est de rester où je suis au moins 18 mois. J'aurais peur qu'un succès trop rapide de la Révolution ne compromît la paix du monde. Donc ce Proudhon rêve de ces 18 mois d'asile lorsqu'il est à Sainte-Pélagie, et il en profite même pour se marier. On lui accorde une permission de sortie, et le 31 décembre 1849, il épouse Euphrasie Piégeard, ouvrière passementière, avec qui il aura trois filles. Vous connaissez le tableau célèbre de Courbet qu'il montre avec ses filles. Et deux de ses filles sont nées au cours de son séjour en prison, tandis que sa femme habitait juste en face dans la rue Fontaine. De nouveau, après des séjours ailleurs, il revient à Sainte-Pélagie. Il demande le soleil et l'air dont je jouissais là. Et voici encore son diagnostic de cette prison. À Sainte-Pélagie, entouré d'amis, ayant, pour ainsi dire, à soigner, moraliser, instruire un petit troupeau, on a l'impression d'être à Thélem, et pour ceux qui regardent le matériel de la vie, logé bientôt dans cette partie de la prison qui a vu sur tout Paris et reçoit le meilleur air de tout le pays, que puis-je souhaiter de plus? Il me semble que mon bien-être et mon devoir se trouveraient ici d'accord, et que l'administration aurait également ses sûretés. Voilà un Proudhon qui n'est donc pas malheureux de ce séjour et qui voudrait l'entretenir. Encore une de ses lettres, un peu plus tard. « Vous ai-je dit que j'habitais présentement Sainte-Pélagie depuis le 18 septembre ? Le directeur de cette maison ayant été changé, j'ai demandé et obtenu ma réinstallation dans la chambre que j'occupais jadis. » Bon, le directeur précédent n'avait donc plus voulu de lui à Sainte-Pélagie. Je ne pouvais faire moins pour ma chère pauvre femme, à qui je tiens lieu de tout, et qui est vraiment méritante par la modestie, l'honnêteté et le dévouement. Il paraît au surplus que la préfecture veut me faire payer la faveur qu'elle m'a accordée par ce transfèrement. Un journal ayant rapporté que l'on m'avait vu au spectacle, le ministre exige que je déclare n'y être pas allé et surtout que je promette de n'y aller jamais. Référence au fait que parfois les prisonniers obtenaient donc une permission de sortie pour aller au spectacle. Et si j'avais le temps, je parlerai de ces jours à Sainte-Pélagie de Félix Pia, le dramaturge auteur du Chiffonnier de Paris, dont j'ai parlé l'an dernier, qui, lorsqu'il séjourne à Sainte-Pélagie, est autorisé à aller assister à la générale de la pièce. C'est la précédente, avant le Chiffonnier de Paris, j'ai oublié son nom. Mais il n'est pas autorisé à aller à la première, alors il donne une loge au directeur de la prison. Et c'est le directeur de la prison qui revient et lui dit que la pièce a été un grand succès. Proudhon, lui, publie au moins deux livres. Il y a au moins deux livres de Proudhon qui sont datés de Sainte-Pélagie, Philosophie du progrès et Seconde lettre de la certitude et de son critérium, ouvrages tous les deux publiés en 1850, datés de 1851. Et ce qui nous montre donc, en effet, au moins ces quelques chambres du pavillon des princes comme une prison studieuse. Le dernier témoignage que je voudrais apporter, c'est celui d'un livre que j'ai lu la semaine dernière et qui m'a beaucoup plu. C'est un livre de Louis-Auguste Martin, intitulé « Voyage autour de ma prison », publié en 1859 à Bruxelles. Alors Louis-Auguste Martin est un personnage assez intéressant. Il a été condamné pour un livre intitulé « Vrais et faux catholiques », publié en 1857. Et c'est un essai satirique que ce « Vrai et faux catholique », un peu à la manière du « Modest Proposal » de Swift, c'est-à-dire un livre qu'il ne faudrait pas prendre au sens littéral. Vous savez, le texte de la modeste proposition de Swift décrivait comment réduire la misère en Irlande en se servant des nourrissons pour s'alimenter. Ici, Martin, Louis-Auguste Martin, montre dans ce vrai et faux catholique que la tolérance est incompatible avec la vraie doctrine chrétienne. Autrement dit, il raisonne à la manière de Joseph de Maistre, et il se fait un défenseur de la plus pure orthodoxie catholique jusqu'à ses conclusions absurdes. « J'en ai conclu, dit-il, qu'elle devait être intolérante et ne pas admettre la coexistence d'autres religions. » Moyennant quoi, il est attaqué, il est prévenu pour attaque à la liberté des cultes. Donc, son texte est pris au sens littéral. Selon l'acte d'accusation, il a soutenu que la tolérance en religion est un fruit de l'athéisme des institutions civiles et politiques, que c'est pour l'Église non seulement un droit mais un devoir de persécuter les hérétiques, que la France doit admettre le régime absolu en religion, que le pape a le droit de s'immiscer aux affaires temporelles de l'Église. Et le résultat, c'est que les juges, non sans ironie, le condamnent pour attaque contre la liberté des cultes. Il est condamné à 6 mois de prison et 2500 francs d'amende par la 6e chambre de la police correctionnelle au printemps de 1857. Je vous rappelle que c'est exactement la date du procès de Flaubert devant la même chambre devant la même 6e chambre de la police correctionnelle et quelques mois avant le procès des Fleurs du Mal devant la même chambre. C'est la chambre qui est spécialisée dans les délits de presse et quelques mois plus tard, c'est Montalembert. Ils passent tous devant la même chambre. Eh bien, ce Martin tient un journal de ses 6 mois à Sainte-Pélagie en 1857, donc durant le procès des Fleurs du Mal. C'est de juillet 1857 à janvier 1856, avec ce titre « Voyage autour de ma prison » qui fait allusion à Xavier de Maistre. Et lui aussi, dit-il, le directeur lui assigne le pavillon de l'Est, plus connu sous le nom de pavillon des aristos ou des princes, séjour ordinaire des idéologues. Donc c'est là que l'on met dans ces quelques cellules les condamnés pour délit de presse. Et il découvre le luxe, ou plutôt le charme de sa chambre, tout en haut. Il est là, dans ce que je vous avais montré, il est là-haut, au coin. Il a cette cellule qui est au coin. Il a deux fenêtres dans cette direction et trois fenêtres de l'autre côté. Non, il dit trois fenêtres. Ce sont ces trois fenêtres-là. Et il en a deux autres sur le jardin des plantes de l'autre côté. Et il va passer 6 mois à sa fenêtre, à regarder Paris, monter à sa fenêtre. Il parle du luxe, du charme de cette chambre qui reçoit la lumière par 5 ouvertures que j'appellerai fenêtres par métaphore et jusqu'où je puis me hisser à l'aise d'une chaise. De là-haut, il domine tout Paris, jusqu'au Père-Lachaise, à Clamart, Belleville, Vincennes, et de l'autre côté, jusqu'à l'Observatoire et tout le quartier Saint-Marcel. En face de lui, il voit, donc dans ces fenêtres-là, la vie des ménages ouvriers qui sont dans cet immeuble, et c'est véritablement le poème de Baudelaire, les fenêtres. Il décrit ce qui se passe derrière toutes les fenêtres. Un ménage d'ouvriers à toutes les heures du jour, un homme qui compte ses sous dans une mansarde, il décrit ses tabatières qui sont là-haut, et une vieille femme qui est... Enfin, il décrit tous les habitants de ces fenêtres. Et il en conclut ceci. Au-dessus de ces deux chambres, dans la maison d'en face, un cinquième bien compté est une autre chambre non mansardée où ne règne ni la misère, ni la richesse, ni les soucis de la veille, ni l'inquiétude du jour, mais où il y a l'espérance du lendemain, le repos du corps, les loisirs de l'esprit, où l'on vit en rentier, logé, nourri, meublé par le gouvernement, où l'on entre à jour fixe pour en sortir également à jour fixe. C'est la mienne. Laquelle des trois préférera-t-on ? Et cette position en hauteur, évidemment, elle peut nous rappeler celle de Julien Sorel à la fin de sa vie, ou celle de Fabrice Del Nongo, avec ce thème de la prison romantique et du bonheur en prison. Mais il insiste beaucoup sur la vue magnifique, sur l'air pur, sur les feux d'artifice qu'il voit jusqu'à la place de la Bastille, et sur le passage des saisons, puisqu'il est là de juillet à janvier, de la canicule à la neige. Il se compare au diable boiteux de Le Sage. Et il parle même de... il a une longue vue dans sa chambre qui lui permet... dans sa cellule, qui lui permet d'observer Paris. Si sévère, dit-il, que la loi actuelle se montre à l'égard des écrivains libéraux, on veut bien encore adoucir pour eux l'exécution des jugements. La prison, alors, se réduit à la simple détention. Il est clair que cet homme est un ironiste et lui aussi fait allusion explicite à Lucrèce, au Suave Mari Magno. Voici une consolation inattendue. La consolation, le thème de la consolation. Un vent impétueux s'élève, une pluie torrentielle tombe, et alors je contemple avec une joie maligne les malheureux passants qui courent librement par les rues et les places, munis ou non de parapluies, sautant les ruisseaux, s'éclaboussant à plaisir. Et je me rappelle l'exclamation fort peu charitable du poète Lucrèce, qu'il est beau d'assister à un naufrage quand on est soi-même à l'abri. Bon, vous voyez que c'est ce thème qui revient, et comme Martin est aussi poète, il versifie, voici quelques-uns de ses vers que je ne lirai pas tous, mais qui se terminent par ces mots, la méditation, cette hôtesse discrète qui fait de la prison une aimable retraite. Donc, le thème de la retraite en prison. C'est un personnage intéressant. Il lit, quelle est la lecture du prisonnier ? C'est Silvio Pellico. Et évidemment, lisant Silvio Pellico, il est heureux de son sort. et tout près de quitter la prison, au mois de novembre, voici ce qu'il écrit dans son journal. On est en novembre, c'est donc près de la fin. S'éveiller le matin par un beau soleil. Il parle beaucoup de ce soleil de l'Est qu'on ne connaît pas à Paris et que du haut de son donjon, il reçoit dans sa chambre au matin. Par un beau soleil qui projette ses rayons naissants sur les murs de la chambre. Déjeuner aussi copieusement que la fortune le permet. S'installer à l'arrêt d'une fenêtre et travailler à loisir, à la vue de la ciel, du ciel, de la terre, des arbres, des passants, de mille maisons groupées sous ses yeux, recevoir sa femme, ses amis, ses connaissances. Après dîner, faire une promenade dans la cour, aller chez ses voisins, entreprendre avec eux une partie de causerie, de cartes ou de dames. Enfin, être à moitié logé, meublé, nourri, chauffé, à rien faire par le gouvernement. Être bien gardé nuit et jour et pouvoir laisser sa montre et son argenterie sur la table et la porte ouverte dans une maison où sur 600 habitants, il y a 400 escrocs. Voilà, s'écrira-t-on, un sort digne d'envie à faire pleurer de tendresse. Dans ses derniers jours en prison, il reçoit une visite de l'inspecteur général qui lui demande « Et comment vous trouvez-vous ici ?» Il répond « Aussi bien qu'on peut l'être en prison. Voilà un homme qui a su donc tirer profit de ces 6 mois dans le ciel de Paris. C'est cette image du ciel de Paris qui figure. Alors, je me demandais quand même qui était cet homme tranquille, sans souci, bienheureux, comme il donne beaucoup de renseignements sur lui dans son journal. Il dit par exemple qu'il a 47 ans, sa femme lui rend visite, il est donc marié. Il est sténographe de l'Assemblée nationale. Bon métier de loisir, comme on sait. Et il est photographe. Il est photographe et il est l'auteur d'un très beau livre qui s'appelle « Promenade poétique daguerrienne », publié en 1850. Il est un personnage intéressant, je vais m'intéresser un peu plus à lui. Il est l'un des premiers membres de la société héliographique dont je vous ai parlé l'an dernier à propos de Francis V., et il a publié ce très beau livre que je vous conseille. Je crois qu'il a été d'ailleurs réédité récemment par la Bibliothèque nationale. Donc ce sont des vers, il versifie et il met ses photographies des daguerréotypes qui sont ensuite sur papier. Et vous voyez la scène vue de Meudon. Il a une petite maison à Meudon. Évidemment, c'est un homme heureux. C'est un homme heureusement athée et qui a su à la fois s'amuser d'être condamné lorsque son pamphlet était pris au sens littéral et trouver des consolations en prison. Voilà que je termine donc cette figure que j'ai appelée celle du repos du guerrier, du bonheur en prison pour ceux qui, évidemment, sont dans des conditions plus privilégiées que d'autres, puisqu'ils sont dans le corridor rouge sous la Restauration ou dans le pavillon des princes sous la monarchie de Juillet ou le Second Empire, qui n'est pas le sort de tous. Mais vous le voyez, de 1821 à 1857, et je pourrais continuer avec d'autres témoignages, on retrouve cette notion de l'otium carcéral. Mais il est temps de conclure cette série de 11 leçons sur la littérature comme sport de combat, expression que j'avais empruntée à Pierre Bourdieu. Ce n'est pas la littérature qu'il qualifiait ainsi, mais l'expression me semblait appropriée, ou encore selon l'expression que j'ai trouvée chez Balzac, la guerre littéraire ou l'escrime littéraire ou la boxe littéraire qu'on trouve un peu plus tard. Je vous l'ai dit au début, c'est une recherche qui est en cours, donc je n'avais pas grand-chose au début, et elle a été parfois tâtonnante. J'ai examiné, je l'ai constaté ce matin en faisant le bilan, j'ai examiné au cours de ces 11 leçons 9 figures, ce qui n'est pas si mal, et j'avais prétendu qu'elles avaient un ordre arbitraire et tout à fait est simplement alphabétique, mais quand on prend la liste des figures que j'ai explorées, on peut s'apercevoir que l'alphabet n'était pas tout à fait exact et que on peut, je crois, discerner un certain parcours, une certaine progression. Depuis les athlètes, ces bravi, ces condottieri, les écrivains comme ils se qualifient, la dialectique des amis et des ennemis, la camaraderie et du charlatanisme, le genre de l'éreintement ou de l'éreintage, suivant la formule de Baudelaire, les formes, et j'avais insisté sur deux formes, l'épigramme et la personnalité, enfin, au milieu, la métaphore de l'épée, et la plume et l'épée, et on aurait pu évidemment être beaucoup plus copieux pour une telle figure, et l'image de la lame de Tolède avait été au milieu. Pour la sixième figure, j'ai consacré deux leçons entières et j'aurais pu certainement en faire encore deux de plus sur ce couple diffamation-duel qui traverse toute cette période avec la difficulté que les régimes successifs ont à empêcher les duels entre écrivains et à traiter les questions de diffamation par des jurys d'honneur. Enfin, cette figure des guerrières, puisque j'ai voulu la semaine dernière évoquer la place des femmes dans cette guerre littéraire, sujet sans doute trop machiste pour aujourd'hui, et puis les deux figures que j'ai qualifiées de réparatrices, de comment s'occuper des blessés, des morts, des humiliés, à travers les loyaux adversaires et leur peau du guerrier ou l'otium carcéral. Donc, vous voyez qu'il y a tout de même un parcours du sport à cette paix des braves, à cette accalmie finale. Mais bien sûr, il y a beaucoup de lacunes. Hein. J'avais dit, j'aurais voulu parler des manifestes et du couple manifeste pamphlet, je ne l'ai pas fait. J'aurais voulu parler davantage de la boxe et de l'escrime, je ne l'ai pas fait. Vous voyez que le dossier de la prison est un dossier énorme que je ne fais qu'effleurer dans ces deux dernières leçons. Il y a vraiment beaucoup à faire sur la prison, sur ce que je disais en quelques mots, Sainte-Pélagie comme République des Lettres durant cette période. Et j'avais aussi annoncé que je souhaitais m'intéresser à la vengeance. Et vous avez vu apparaître cette némésis à plusieurs reprises, la némésis, les représailles si importantes. Tout ça, c'est peut-être pour plus tard. Quelques mots aussi de conclusion sur la période qui a été abordée. Au début, je l'ai dit, en gros, la période dans laquelle je traite de cette guerre littéraire, de cette escrime littéraire, c'est celle de la restauration de la monarchie de Juillet et du Second Empire. Et je le disais parce que l'idée du sujet venait du cours de l'an dernier sur le chiffonnier, et la grande période du chiffonnier, c'est des années 1820 à 1883-1884, l'invention de la poubelle qui marque la fin de la chiffonnerie. Et je vous l'ai dit au début, l'idée de ce cours vient de cette métaphore, cette vieille métaphore de la plume et de l'épée pour laquelle j'avais de la curiosité, des armées des lettres, si vous voulez, on a revu aujourd'hui à plusieurs reprises, qui, au fur et à mesure des leçons de l'an dernier, avaient été remotivées, la plume et l'épée, par un troisième terme, le crochet du chiffonnier. Le crochet du chiffonnier qui, durant toute cette période, est à la fois un substitut de l'épée et un substitut de la plume. Et c'est une figure qui, en même temps, avait été consolidée par l'introduction de la plume de fer autour de 1830 qui élimine la vieille plume d'oie. C'est donc cette configuration qui m'a conduit au thème du cours de cette année et qui m'a permis de parler de l'écrivain combattant comme une sorte de pendant du chiffonnier de l'an dernier. Mais je crois qu'au terme du cours, je puis préciser un peu mieux, après coup, la période. Ça voudrait dire que la recherche n'a pas été complètement inutile. Je dirais que la période sur laquelle le cours a porté, c'est 1819-1881. Et vous vous souvenez que 1819, c'est la loi sur la presse, la loi libérale de la Restauration, qui a introduit la notion de diffamation. Et j'ai fait un cours sur l'introduction de cette notion dans le droit. Auparavant, dans le code napoléonien, il était question de calomnie seulement. La diffamation a remplacé la calomnie, et la diffamation, nous l'avons toujours. C'est le terme juridique qui n'a pas changé. Et ainsi que la diffamation est introduite, l'offense à la personne royale, au chef de l'État, et vous avez vu qu'on a beaucoup condamné au nom de cette offense. Et puis, le terme de cette période, eh bien, je crois que c'est la loi du 19 juillet 1881 sur la liberté de la presse, loi qui est toujours en vigueur dans la dernière version qui date de 2012. Mais la loi de 1881 reprend beaucoup des termes de 1819 dont je vous avais signalé qu'ils venaient largement de Royer-Collard, hein, donc des doctrinaires sous la Restauration, à un moment où le libéralisme pouvait s'introduire. Alors, cette période 1819-1881 est donc très intéressante du point de vue de cette guerre littéraire, parce que cet entre-deux, ce moment est caractérisé par l'impuissance de l'État, née des révolutions et des coups d'État successifs, à exercer le monopole de la violence légitime, la violence verbale et la violence physique. Et le résultat, eh bien, c'est cette copiosité, prolifération et de la diffamation et du duel et les représailles dans cette période. Je ne suis pas allé tout à fait jusqu'à 1881. Je n'ai jamais été au-delà, je crois, du Second Empire, mais nous avons eu quelques contributions, par exemple sur Barrès et même sur Péguy, qui est en dehors de ce moment, mais ça montre bien qu'il y a eu une sorte de queue au-delà de 1881, mais enfin, c'est une queue. Vous vous souvenez du livre de Féréus, du Jardin, l'annuaire du duel. Bon, c'est la seule décennie pour laquelle on possède un annuaire du duel, 1881-1889. On a donc là un bon corpus. C'est le corpus que Tard avait utilisé dans sa monographie de 1892, qui, au fond, clôt bien cette question du duel littéraire comme règlement des cas de diffamation. Ensuite, bon, il y a quelques duels historiques, mais vraiment, ce sont des survivances. Le duel de Proust et de Jean Lorrain en 1897, les duels qui ont lieu autour de l'affaire Dreyfus, le duel de Jaurès et de Desroulèdes en 1904, ou encore le duel de Gaston Defferre et du député René Ribière en 1967. Mais la période qui m'intéresse, c'est vraiment celle-là. Dernière remarque avant de conclure, le cours de cette année, on m'a demandé, j'ai reçu quelques messages pour me dire, mais pourquoi parler de cette période et pas d'aujourd'hui, de la violence littéraire et de la guerre d'aujourd'hui, est-ce par évitement? Bon, parlant de 1819 à 1881, à mon sens, je parle aussi d'aujourd'hui, où les cabinets noirs existent toujours, la diffamation et d'autres formes de la violence verbale. Et je crois qu'il vaut la peine de faire un détour et de voir comment cette violence, dont certains disent qu'elle est tout à fait particulièrement française, que c'est la vie littéraire française qui est particulièrement violente, où on passe, sans trop de transition, au débat avec les contradicteurs, puis au combat avec les adversaires, et enfin à l'abattage des ennemis. Et très souvent, on l'a vu, les ennemis sont d'anciens amis. Donc, il me semble avoir aussi parlé d'aujourd'hui à travers ces leçons sur ces années 1819-1881 qui sont tout de même notre origine encore. Enfin, je ne sais pas ce que je ferai l'année prochaine. C'est toujours la question à la fin de ces cours. C'est un peu comme pour les séries télévisées. Elles s'arrêtent et On ne sait pas si ça reprendra. C'est le producteur qui décide s'il pense qu'il y aura encore des auditeurs l'année suivante. Donc, c'est au producteur de décider. Mais le producteur, c'est moi aussi, hein, dans ce cas. Donc, vous saurez... on doit donner les sujets des cours pour le mois de juin, et donc vous saurez à ce moment-là ce que je ferai. Mais j'ai tout de même l'impression de ne pas en avoir fini avec ce sujet et qu'il y a encore beaucoup à dire sur ce sport, cette boxe, cette escrime, cette guerre littéraire française, notamment dans cette période du XIXe siècle. Je vous remercie.